105 FM.
Savourez nos différences.
Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G. Toute l'équipe du Plantis est ravie de vous retrouver dans sa nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la plante détestée des amateurs de gazon tondu, la porcelle. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant la prochaine demi-heure pour partir à la rencontre de cette plante intrépide, souvent confondue d'ailleurs avec le pissenlit. Comme tous les vendredis pairs à 13h, le tiers-lieu Le Plantis vous invite à partir en nature, à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Pour m'accompagner dans cette émission, nous écouterons la chronique « L'aquabulaire, les mots de la rivière » dans laquelle Marie nous permettra de mieux comprendre ce qu'est un aquifère. Arcandia, dans sa chronique « Jardiner avec les plantes sauvages », nous initiera à la création de beaux parterres dans son jardin. Puis Noël nous fera découvrir le blaireau dans sa chronique « Nos voisins sauvages ». Enfin, nous aurons le plaisir d'écouter la fin de l'interview de Jacques Soignon, auteur du livre « Échappée belle en Maine-et-Loire », pour poursuivre la découverte de la flore, des paysages et du patrimoine de notre département. Un très beau programme pour ravir vos sens. Restez bien à l'écoute sur Radio G 101.5 FM. Pour nous accompagner dans ce voyage en nature, le cri perçant du martinet noir gardera nos sens en éveil et rendra hommage à cette saison, tout en bourgeons et en floraison qu'est le printemps. Véritable fourmulin des airs, cet oiseau se distingue des hirondelles par ses ailes en forme de faucille et son corps sombre. Le martinet passe ainsi le plus clair de son temps en vol, y compris la nuit, et ne s'accroche que ponctuellement aux façades des bâtiments. Vivant en colonie, nous pouvons observer le balai incessant de leur poursuite stridente. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire, au milieu du jardin, balance ses chacos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs, les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames, auprès desquelles vont officieux cornac celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes, fort sérieusement discutent les traités, puis prisent en argent et reprennent. En somme, épatant, sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son onin d'où le tabac par brin déborde, vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts, il canne les voyous. Et, rendu amoureux par le chant des trombones, très naïf et fumant des roses, les pioupiou caressent les bébés pour enjôler les bonnes. Moi, je suis débraillé comme un étudiant sous les marronniers verts, les alertes fillettes. Elles le savent bien et tournent en riant vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot. Je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodée de mèches folles. Je suis sous leur corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas. Je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres. Ce poème d'amour d'Arthur Rimbaud évoque avec sensualité la faculté de notre esprit à divaguer et imaginer lorsqu'il se retrouve en présence de végétation. Sa description de pelouse mesquine est un excellent préambule pour parler de la porcelle, notre plante invitée du jour et détestée des amateurs de gazon ras. Cette cousine du pissenlit, qui partage avec lui ses capitules jaunes éblouissants, fait partie de la famille des composés. Cette vivace qui affectionne les terrains dégagés s'en distingue par ses rosettes de feuilles aux bords arrondis, velus et aplatis au sol. Un peu comme des feuilles de pissenlit ayant la chair de poule, comme me l'a décrit récemment et joliment au cours d'une sortie botanique. Cette plante est endémique de toute l'Europe et se développe dans les milieux plutôt sableux, au pied des arbres, des murs, mais se plaît aussi dans les pelouses, car elle n'a pas besoin d'un fort ensoleillement. Très résistante, elle vit toute l'année. La porcelle apprécie les milieux secs, pour autant elle a besoin d'eau pour pousser et germer. Je vous invite maintenant à écouter Marie dans sa chronique « L'aquabulaire, les mots de la rivière » pour vous permettre de mieux comprendre d'où vient l'eau et ce qu'est un aquifère. One, two, three. When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river.
Dis Marie, c'est quoi un aquifère ?
Un aquifère, c'est tout simplement une grande réserve d'eau souterraine. Mais attention, ce n'est pas une immense grotte remplie d'eau comme un lac sous terre. L'image est séduisante, mais fausse dans la plupart des cas. En réalité, l'eau se cache dans les minuscules espaces entre les grains de sable, dans les fissures des roches ou dans des couches de gravier. C'est un peu comme une gigantesque éponge naturelle enfouie dans le sol. Prenons un exemple concret. Quand il pleut, l'eau ruisselle vers les rivières, mais une partie de cette eau s'infiltre aussi lentement dans le sol, parfois pendant des semaines ou des mois. Elle descend couche après couche jusqu'à atteindre une zone où les roches deviennent imperméables. L'eau ne descend plus, elle augmente en volume, elle se stocke. Cette zone, c'est l'aquifère. Dès lors, vous vous dites que je ne donne que la définition d'une nappe phréatique, mais il y a une nuance. L'aquifère, c'est le type de roche qui contient la nappe phréatique. Les roches peuvent être plutôt sableuses, plutôt dures ou fissurées. Parfois même, plusieurs aquifères se superposent, tel un millefeuille. La zone de stockage peut être proche de la surface ou bien plus profonde. En fonction de ses qualités, l'eau stockée le sera de manière plus ou moins passagère et son remplissage sera plus ou moins rapide. Certains territoires se développent presque entièrement grâce à ces réserves invisibles. À Paris, par exemple, une partie de l'eau potable vient d'aquifères situés dans le bassin parisien. L'eau de pluie tombée il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies, s'est lentement infiltrée à travers les roches avant d'arriver dans nos robinets. Autrement dit, quand on boit un verre d'eau, on boit parfois de la pluie très ancienne. Il existe aussi des aquifères gigantesques. L'un des plus célèbres se trouve sous le désert du Sahara, l'aquifère nubien. C'est une réserve d'eau colossale qui s'étend sous plusieurs pays d'Afrique du Nord. Certaines de ces eaux ont plus de 20 000 ans. Elles sont tombées sous forme de pluie à une époque où le Sahara était beaucoup plus vert. Il faut garder en tête que moins de 10% de l'eau de pluie qui tombe sur un territoire permettra effectivement d'augmenter le volume de la nappe phréatique. Dès lors, il peut pleuvoir intensément durant un mois, comme ça a été le cas autour d'Angers en février, sans pour autant que les aquifères soient à des niveaux élevés à la fin de l'hiver. Nous avons d'ailleurs tendance à vider les aquifères plus vite que la nature ne peut les remplir. Et c'est là que les aquifères nous rappellent une chose essentielle. Même si l'eau semble cachée et immense, elle n'est pas infinie. Elle met parfois des siècles à se reconstituer. Si vous souhaitez connaître l'état de remplissage des aquifères français, vous pouvez consulter le site du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui publie une fois par mois une sorte de météo des aquifères. One, two, three. When you feel ashamed, go to the river.
When you're feeling sad, go to the river. Au beau jour, chaque souche de porcelle émet des tiges dures et fines de 50 cm environ, dépourvues de latex, ce qui lui vaut son nom de porcelle à tige nue. Ces tiges portent des inflorescences en capitules jaunes qui donneront des fruits à aigrettes de soie plumeuse disséminées par le vent, comme celles du pissenlit. Dépourvues de dormance, les graines de porcelle doivent donc germer dans l'année et s'installent plus facilement dans les milieux ouverts et tondus, et ce d'autant plus qu'elles ont besoin de beaucoup de chaleur. Pour survivre dans la durée, la racine primaire d'une souche a la capacité à générer de nouvelles racines qui, elles-mêmes, donneront à leur tour de nouvelles tiges. De cette façon, elle forme des colonies très denses de plusieurs pieds, ce qui lui a donné son surnom de porcelle enracinée, porcelle radiqueuse ou porcelle à forte racine. La porcelle est peu appréciée des amateurs de jardin tondu. Pour vous aider à l'accepter, je vous invite à écouter Noël dans sa chronique « Nos voisins sauvages » pour porter un autre regard sur la faune sauvage et nous parler du blaireau, un autre détesté.
Bonjour, c'est Noël de Nature et Simple, cueilleuse de plantes et animatrice nature à la Jaillivon. C'est le 5e épisode de la chronique « Nos voisins sauvages », une chronique qui me tient à cœur parce qu'elle remet de la lumière et de la vérité sur certains animaux qui habitent tout près de nous. Un ancien petit ours, tout près de nous ? À votre avis, est-ce possible ? Eh oui, c'est l'histoire du blaireau. Il faisait partie auparavant de la famille des ours, les ursidés. Il leur ressemble en effet avec un corps trapu et court sur pattes. Il est maintenant passé dans la famille des mustélidés, famille qui accueille aussi la fouine, la belette, etc. Il fait aussi partie des plantigrades, les animaux qui marchent sur la plante des pieds, tout comme l'ours encore et l'homme. L'empreinte de sa patte arrière permet d'ailleurs parfois d'observer sa plante de pied complète. Elle est très caractéristique. Personnellement, j'adore rencontrer les indices de la présence du blaireau. C'est un animal fouisseur qui vit dans des terriers composés de tunnels et de chambres. Joshua Grums, auteur du superbe livre « Toutes les traces des animaux d'Europe » nous dit qu'il rembourse ses tunnels d'herbes sèches, de mousse. Il coince ses matériaux entre son menton et ses pattes avant, puis les apporte dans le terrier en marche arrière. Un terrier de blaireau peut être utilisé par plusieurs générations pendant plus de 100 ans, en étant constamment agrandi. Il peut parfois comporter plusieurs étages et être d'une taille exceptionnelle. Un terrier en Angleterre mesurait par exemple plus de 35 mètres par 15 mètres et avait 12 entrées, une longueur totale de tunnel de 310 mètres. Et ce n'est pas tout. Dans le côté exceptionnel du blaireau, c'est un animal super sociable car il tolère dans ses propres galeries le renard, le lapin. Il vit en famille en moyenne de 6 individus et invite parfois même, entre guillemets, une autre famille de blaireaux pour la nuit. On appelle communément la femelle la blairelle et les petits les blaireautins. Alors, où s'installe-t-il ce voisin sauvage ? Il peut vivre dans différents habitats, forêts, bocages, zones périurbaines. Il lui faudra juste un sol meuble et drainé pour son terrier, du couvert végétal pour se faire discret et trouver de multiples sources de nourriture. Le blaireau est classé aussi parmi les carnivores. Mais on pourrait le dire presque omnivore. En effet, ils mangent beaucoup de vers de terre, surtout en hiver pour leurs sources en graisse, des limaces, des campagnols, mulots, grenouilles, mais aussi des champignons, des fruits, des racines. Alors, tout le monde le connaît dans nos campagnes et il peut être malheureusement pas toujours bien perçu. Il peut avoir la réputation de créer des dégâts dans les cultures, mais c'est vraiment très anecdotique. C'est une espèce chassable en France, malgré une méconnaissance fine de l'état de sa population. Cette espèce a disparu d'une grande partie de son aire de répartition naturelle, du fait de la chasse, du piégeage, et de la destruction ou de la fragmentation paysagère de ses habitats. Il souffre probablement aussi de la régression des vers de terre, induite par l'agriculture intensive, ou depuis quelques années localement par l'introduction d'espèces invasives. De nématodes tueurs de vers de terre. Pour vous donner une idée, sa densité moyenne en France est de 0,63 individus par kilomètre carré. C'est bien faible. Et il est bon de protéger ce petit ours de nos campagnes. En Alsace, par exemple, des opérations pacifiques de délocalisation de terriers ont été menées dans des lieux où leur présence était problématique. C'est une alternative à la chasse que je souhaite voir se développer partout en France, vraiment. Le blaireau est un animal craintif, sans aucun danger pour nous. Parfois, il peut s'approcher des jardins, surtout en période sèche l'été. Car si vous arrosez vos massifs et pelouses, il pourra venir se nourrir chez vous. Et il est très friand des bulbes, par exemple. Vous pourrez toujours les protéger avec un fin grillage appliqué à même la terre. Voilà. Un tour d'horizon très rapide pour le blaireau. Je vous souhaite de le croiser peut-être un jour, cet animal nocturne si discret, mais bien présent avec nous. Merci pour votre écoute, vivant parmi les vivants, et à bientôt pour une autre chronique.
Allez, pour nous inviter à profiter du mois de mai, faisons une pause en chanson avec Vanessa Paradis et Jacques Dutronc en duo dans Le Petit Jardin.
C'était un petit jardin qui sentait pour le métropolitain. Il sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin.
Mais un jour, du jardin, passe un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta.
De grâce, monsieur.
Un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. De grâce, monsieur.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre-urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM et nous partons à la découverte de la porcelle enracinée ou Hypocoeris radicata. La solidité des tiges et la disposition aplatie des feuilles de porcelle la rend particulièrement résistante au passage des tondeuses. Aux grandes dames des jardiniers qui constatent que les tiges se recourbent et se redressent à chaque passage. Par ailleurs, la tonte offre un parterre idéal pour la germination des graines, ce qui réduit encore les espaces disponibles pour le gazon. Alors, quelle alternative? Une possibilité pourrait être de réduire les tontes, voire de les supprimer sur certains espaces de façon à réduire leur installation. Vous pouvez aussi considérer qu'elle offre une alternative intéressante aux pelouses grâce à ses feuilles aplaties et résistantes au piétinement et à la sécheresse. À vous de faire vos expériences. Pour vous donner envie d'expérimenter avec les plantes sauvages, partons à la rencontre d'Arcandia dans sa chronique « Jardiner avec les plantes sauvages » qui va nous donner des astuces justement pour composer avec elles.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Dans les précédentes chroniques, je vous ai transmis l'importance de laisser une place au jardin pour la mort, toutes ces fleurs et tiges fanées qui nous tardent de vite supprimer de notre regard. Puis je vous ai raconté l'histoire d'un sol et la naissance d'un terroir. J'ai ensuite introduit les plantes sauvages qui, mises au service de nos chers jardins, aident et accompagnent nos précieux cultivars. Je vous donne maintenant quelques clés pour les accueillir et avoir un beau parterre dense et riche. Rappelons déjà que la nature a horreur du vide. Partout où elle le peut, elle enverra un cortège de plantes pour couvrir la surface de la terre. Créer le vide au bon moment est la clé pour obtenir un couvert végétal dense et diversifié. D'abord, retenez ceci. Lorsque vous devez porter un chapeau parce qu'il fait trop chaud, trop froid ou qu'il pleut, on range les outils et on laisse le jardin tranquille. Pour nettoyer un massif ou laisser une place pour la venue de plantes sauvages, privilégiez donc la sortie de l'hiver lorsque les températures nocturnes remontent et que les premiers bourdonnements des butineurs vibrent dans votre jardin. Certaines plantes ont tendance à être dominantes et éliminent toute concurrence comme les orties et les graminées. Si vous souhaitez favoriser une grande biodiversité dans vos massifs, il est nécessaire de réguler les plantes dominantes pour laisser de la place à de nouvelles venues. J'utilise dans ce cas la grelinette pour décompacter le sol, puis le croc pour retirer un maximum de leurs racines. À la prochaine averse, des milliers de graines vont germer et des centaines de plantules vont apparaître. L'opération est réussie. Il n'y a maintenant plus qu'à les laisser grandir et sélectionner parmi elles celles que vous souhaitez garder ou tout simplement observer ce petit monde grandir et retirer vraiment celles que vous n'aimez pas. Au jardin des Arcans, je régule beaucoup les chardons dans certains massifs proches des chemins souvent empruntés. Car bien que très important pour la biodiversité, je n'aime pas me piquer. J'ai également du mal avec les laitrons lorsqu'ils sont proches des bordures. En étant patient, chaque plantule vous révélera son identité et vous saurez, selon votre sensibilité, qui garder. On me demande souvent comment je me suis formée et ai appris ce que je transmets. Je suis autodidacte et je ne cherche pas à nommer toutes les plantes, mais à les rencontrer. Lorsque je rencontre un humain pour la première fois, je ne vais pas toujours me souvenir de lui, de son nom, et il faudra peut-être que je le rencontre quelques fois pour que nous devenions amis. Je vous invite à vivre la même expérience avec les plantes, et en particulier les plantes sauvages. Rencontrez-les une première fois, voyez comment elles évoluent, à quoi ressemblent leurs fleurs, quelle place elles prennent, comment se comportent-elles avec le voisinage. Au fil des années, vous sélectionnerez parmi la proposition de plantes que vous fait la nature, celles qui vous touchent, que vous aimez, que vous prenez plaisir à côtoyer au quotidien. Et oui, la nature est généreuse. À chaque printemps, vous aurez sûrement la chance de découvrir de nouvelles plantes. Travailler un jardin de cette façon, c'est comme travailler avec un pépiniériste à la sélection végétale extrêmement pointue et parfaitement adaptée à votre terroir. Ensuite, si vous avez des cultivars déjà en place, surtout si vous les avez plantés il y a moins de 3 ans, il faudra être vigilant. Il y a ceux qui ne supportent pas la concurrence. Les plantes de plein soleil comme les méditerranéennes, il faudra passer de temps en temps, rabattre à la faucille ou à la cisaille les plantes sauvages qui pourraient les ensevelir. Et bien évidemment, laisser cette matière végétale à leurs pieds pour leur offrir un paillage frais et de saison. Au contraire, il y a beaucoup de cultivars qui, par nos printemps secs et étés arides, bénéficient beaucoup de leur ombre. Il faut cependant être vigilant sur un point, la concurrence en eau. Les plantes sauvages ont des générations de mémoire de votre terroir, contrairement à nos horticoles qui n'ont rien demandé et sortent tout droit de leur pépinière où elles étaient dorlotées. Les premières années, les jeunes plantes vont développer leur système racinaire et seront très vulnérables. Pour celles qui ne sont pas plus hautes que la végétation sauvage, comme c'est le cas de la plupart des vivaces, elles resteront toute leur vie en concurrence avec les plantes sauvages. Seules les plus résilientes et bien choisies s'adapteront. Vous avez d'ailleurs une très belle proposition de plantes ensauvageables dans le traité du jardin punk d'Éric Lenoir. Pendant 3 ans, il est nécessaire de surveiller le bon développement de vos plantes bien-aimées, pailler leurs pieds et les arroser en cas de détresse. Attention, pas de petits arrosages réguliers, mais plutôt un gros arrosage une fois par mois, 2 si vraiment vous y tenez. Cela formera une sorte de colonne d'eau en profondeur dans votre sol et invitera les racines à plonger en profondeur. Alors que de petits arrosages réguliers de surface inciteront vos plantes à développer un système racinaire superficiel et elles deviendront dépendantes de vos interventions. Toutes ces informations peuvent vous faire peur et être conseillées dans vos débuts peut vous soulager. Pour discuter plus longuement du jardin sauvage et en découvrir un exemple, rendez-vous dans mes jardins le 6 et 7 juin de 14h à 19h à Nioiseau. Retrouvez plus d'informations sur les réseaux sociaux au nom des Jardins des Arcans. Dans ma dernière chronique, je vous raconterai comment sublimer cette végétation sauvage pour qu'elle participe encore davantage à l'esthétique de votre jardin.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Si tu veux te porter bien dans ton estomac, mets un jardin, nous instruit un proverbe gascon. Aujourd'hui, peu utilisée pour ses vertus médicinales, la porcelle était jadis préconisée contre les maladies de poitrine et comme plante dépurative au printemps. En clair, en consommer agira sur votre vessie. Cette plante rustique est souvent qualifiée de plante de survie. Elle a d'ailleurs longtemps servi à nourrir les animaux, et tout particulièrement les cochons, ce qui lui a donné son nom de porcelle, ainsi que les autres surnoms, comme salade de porc ou grognot. La porcelle enracinée a pourtant été longtemps cultivée dans les jardins potagers. Sa feuille, crue et croquante, est dépourvue d'amertume. Elle peut se savourer en salade. Ses feuilles sont moins amères que celles du pissenlit. En Normandie, la salade de feuilles de porcelle se nomme plaque. Cuite, elle a la saveur du chou. En Auvergne, les feuilles sont cuites à l'étouffée à la poêle avec du beurre et un peu d'eau. En Italie et en Espagne, elles sont servies avec de l'huile d'olive ou cuisinées en soupe. Les jeunes tiges et les boutons floraux sont aussi comestibles. Les racines séchées et torréfiées de porcelle se consomment comme celles de la chicorée. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous partage une recette de porcelle au chou rouge de l'ethnobotaniste François Couplan. Faire revenir dans de l'huile d'olive des oignons hachés grossièrement. Lorsqu'ils deviennent translucides, ajoutez 300 g de feuilles de porcelle et 300 g de feuilles de chou rouge hachées préalablement. Salez et faites cuire une dizaine de minutes. Versez 2 cuillères à soupe de tamari, sauce soja, et dégustez seul ou avec un plat de céréales. Allez, pour conclure cette émission et vous faire envie de découvrir des lieux où nature et horticulture peuvent cohabiter, retrouvons la fin de l'interview de Jacques Soignon, auteur du remarquable ouvrage « Échappée végétale en Maine-et-Loire » pour évoquer le patrimoine végétal d'Anjou. Ce qui est aussi intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous mettez en avant le fait qu'on puisse effectivement associer des végétaux horticoles avec des végétaux qui poussent spontanément et que le jardinier est souvent le roi du désherbage. Voilà, je voulais savoir comment vous voyez-vous les choses, comment culturellement on a du mal à imaginer les deux ensemble.
Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, heureusement, les techniques ont évolué, l'esprit a changé aussi. L'abandon des herbicides était véritablement la chose à faire la plus urgente, puisque de fait, elle éliminait à sa façon une bonne partie de la diversité déjà spontanée, mais au-delà de ça, pouvait être aussi un obstacle pour le jardinier. Aujourd'hui, donc, on est amené à regarder autrement les choses, à accueillir de façon bien plus bienveillante